IDFM Radio, le média valdoisien.
Il est l'heure d'accueillir maintenant la chanteuse Gomard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous avec une chanson qui passe actuellement depuis quelques semaines, quelques mois sur notre antenne, c'est Non, avec aussi sûrement, et nous l'espérons, un album à suivre. Gomard, c'est Margot en fait. Hein.
C'est ça.
Et depuis des années, on t'appelle comme ça, puisque tu as démarré réellement quand, 2017, tu sors un premier album. C'est
ouais.
Là que ton aventure musicale à toi démarre avec l'album Jaune.
C'est ça. Donc 2017, premier album qui s'appelle Jaune. Moi, je fais de la musique depuis que je suis petite. J'écris des chansons depuis que je suis petite. Mais la toute première chanson, ça s'appelait Entre tes doigts. Et donc, du coup, extrait cet album Jaune. Et suite à ça, j'ai eu une longue réflexion artistique sur là où je voulais aller. Il y a eu le Covid aussi, où il s'est passé pas mal de choses. Et du coup, j'ai pris le temps de maturer ce nouveau projet, notamment Non, qui est l'extrait du prochain album à venir. Donc, ça m'a bien mis, 3-4 ans avant d'en venir et d'être sûre de l'album qui arrive. Mais là, je suis très contente de revenir sur la scène musicale.
Tu es en pleine forme, en tout cas, pour attaquer l'enregistrement de ce nouvel album et nous proposer d'autres chansons. Au sein de la famille, il y a un papa guitariste. Donc, c'est un petit peu lui aussi qui t'a donné peut-être l'envie, le goût de chanter.
Ouais, en fait, j'étais dans une famille qui a toujours écouté énormément de musique. Et mon papa, pour m'endormir le soir, en fait, me faisait des chansons à la guitare, des berceuses, tous les soirs.
Enfin, inventait des berceuses ou c'était des berceuses connues?
Les deux.
Connues.
Il inventait ou c'était connu et tout. Et en fait, il m'a donné vraiment le goût à ça. Et un jour, je lui ai dit, écoute, papa, je crois qu'en fait, ces berceuses, j'aimerais bien les chanter avec toi aussi. Et il m'a offert une guitare. Et suite à ça, on a commencé à chanter en duo tous les deux. Et c'est là où j'ai pris le goût vraiment à la musique et surtout aux guitares-voix. J'ai beaucoup déménagé, en fait. Dans mon enfance, j'habitais partout en France et je me suis rendu compte qu'en fait la musique c'était vraiment un vecteur social et c'était trop pratique pour se faire des potes. Si tu veux, j'avais toujours ma guitare en soirée quand j'étais ado. J'étais la petite nouvelle, mais j'étais la petite nouvelle avec la guitare. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était assez magique. Je me suis fait plein de copains grâce à ça et en fait je me suis dit ok, en fait c'est vraiment ça qui me plaît et c'est ça que je veux faire. C'est le partage avec la musique, chanter. Et faire
tu joues, tu chantes, mais tu écris peut-être plus tard après, à partir de tes 14 ans, je crois.
Oui, c'est ça, 14-15 ans, ma première chanson. Qui était une chanson évidemment d'une rupture qui n'était absolument pas arrivée, un truc super dramatique en anglais.
Tu as inventé quelque chose.
Approximatif. J'avais l'impression que j'ai parlé des spaghettis, des pâtes au pesto aussi. C'était quelque chose.
La Belle et le Clochard.
Voilà, c'est ça. Et j'ai eu mes premiers groupes de musique au lycée, au collège. Et suite à ça, en fait, j'ai jamais lâché la guitare et la musique. Et je me suis mis à écrire vraiment des chansons de plus en plus régulièrement.
Et donc, tu as voyagé pas mal en France, aujourd'hui Paris, mais il y a eu aussi pas mal Montpellier.
Il y a eu Montpellier, ouais. Et maintenant, je dois avouer que Montpellier, c'est peut-être ma ville préférée actuellement. Mes parents, ils sont retournés. J'ai habité 5 ans. J'y retourne dès que je peux. Et je trouve qu'en fait, les vibes de cette région-là, l'Occitanie et du Sud, ça matche vachement bien avec qui je suis. Et il y a des chansons sur l'album que justement j'ai écrit avec des artistes de là-bas parce qu'il y a un truc très solaire en fait dans cette partie de la France qui me parle énormément.
Aujourd'hui, tu as de quoi faire un concert d'une heure et demie, largement.
Ah oui, largement.
Avec toutes les chansons que tu as créées. Donc tu disais tout à l'heure Entre tes doigts. Il y avait eu aussi Pas les codes. Ça, c'était avant ou après?
Pas les codes, c'était 2020. Pas les codes, pour moi, c'est un peu le titre de transition entre Jaune et le nouveau projet que je suis en train de préparer. Puisque comme je t'ai dit, c'était pendant le Covid et que du coup, j'ai testé des choses musicalement, voilà. Je suis allée expérimenter, donc Pas les codes était plus pop. Alors que là où, enfin, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que je fais notamment avec Non, il y a un retour plus, ouais, chanson, festival un peu ska, pop, rock et tout qui me parle plus.
Il y a eu Boué aussi, Yellow, ouais. Super Normal.
Ouais.
Donc ça, c'est assez récent, c'est entre 2023 et 2024.
Ouais.
Cette chanson qui marquait un petit peu aussi, finalement, ton retour, une première mise en bouche. Avant le single, Non?
Oui, Super Normal, c'est complètement le premier extrait de l'album qui arrive. Et je suis assez fière de ce titre parce que il a été écrit assez rapidement, en fait. Vraiment très, très rapidement. Un après-midi, d'ailleurs, avec un artiste qui s'appelle Guillaume Boscaro, que j'embrasse très fort, qui a notamment composé pour Louane et pour plein d'autres artistes français. Et avec qui j'ai eu vraiment un coup de cœur, une alchimie assez forte. En fait, ce projet, c'est la première fois qu'avant, j'écrivais toute seule. Et depuis Super Normal, en fait, et Non et tout ça, c'est la première fois que je co-écris avec d'autres gens. Et j'adore ça. Je me rends compte qu'en fait, justement, dans le partage avec les autres, dans le côté un peu ping-pong créatif, c'est un truc qui m'éclate. Et du coup, toutes les chansons de l'album ont été, quasiment toutes ont été coécrites avec des gens différents. Et j'adore.
Mais au tout début, c'est vraiment des reprises. Et puis, j'ai vu que tu avais créé, à partir de ta chaîne YouTube, des go-mash-up.
Oui, les go-mash-up, ça,
c'est
c'était
quoi, ça
tout début. Là, si tu veux, c'est vrai, quand on commence la musique...
Là, t'avais 5 ans, non?
Non, j'avais... Ouais, c'était avant Jaune, juste tout petit peu avant Jaune. Parce que je me suis dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de la musique, tellement de gens qui font des covers. Et on sait que c'est le moyen le plus facile de se faire connaître sur les réseaux, mais je voulais trouver une manière un peu originale de le faire sans juste faire des reprises. Et c'était avant TikTok aussi. Tu vois, j'aurais adoré refaire les go-mash-up sur TikTok, peut-être que ça va venir. C'était bien avant TikTok et je me suis dit,
ok,
il est pas trop tard du tout. Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de prendre plein de chansons que j'aime, mais de les gomariser et d'en faire des go-mash-up et de prendre, en fait, tu sais, il y a des chansons des fois où on aime juste un petit, enfin, on sait pas pourquoi, il y a un petit bout qu'on aime plus. Ça peut être un bout du pont, un bout du refrain et tout. Et je me suis dit, ok, en fait, je vais faire un mélange avec plein de chansons et plein de références que j'ai et en faire les go-mash-up. On en a fait 3 et c'était un super souvenir.
Et notamment, Ben Masvé, que tu as choisi.
Et oui, Ben Masvé.
Comme artiste, qui t'inspire, qu'est-ce que tu lui trouves à cet artiste plus
Ben
exactement?
Ben Masvé, c'est un.
Il a une magnifique plume, ouais. Oui.
Il écrit très très bien, mais surtout Ben Masvé, ça fait. Je peux dire que je suis une puriste de Ben Masvé parce que ça fait vraiment 10 ans que je le suis.
Bravo.
Depuis qu'il a commencé la musique, parce que je trouve son parcours assez fort parce qu'il était médecin et il a été tout plaqué à 30 ans justement alors qu'il venait d'être médecin généraliste après quand même 10 ans d'études. C'est dit en fait non, c'est pas ça qui me plaît, j'ai envie de faire de la musique. Et moi, je l'ai suivi à ses tout débuts, à son tout premier album et j'ai tout de suite accroché avec évidemment la plume, les thèmes et surtout son flow. Je trouve que je sais qu'il écoute, moi je suis un peu comme ça aussi, énormément de rap et d'urbain et il s'inspire de ça pour avoir un truc un peu parlé slamé et tout et très poétique et moi c'est vraiment de quelque chose en français, je trouve que ça marche super bien. C'est très dur de le faire mais moi ça m'a parlé tout de suite. Vraiment tout de suite. Le parfait mélange entre la chanson française et le rap.
On parlait des réseaux sociaux et puis tu as parlé de TikTok aussi il y a quelques minutes.
Ouais.
Et de temps en temps, tu embarques des membres de ta famille avec toi, notamment ta maman.
Oui.
Pour faire la promotion
pour
de tes chansons.
Exactement.
Ouais. Pourquoi ça passe mieux? Non.
Bah écoute, j'exploite tous les membres de ma famille pour faire des vidéos, si tu veux. Quand il n'y a pas mon label qui peut le faire avec moi. Et non, je m'amuse beaucoup avec ce réseau-là, TikTok. Je trouve que c'est obligatoire en tant qu'artiste de l'avoir en 2025. C'est vraiment, on peut pas faire sans. On peut vraiment, enfin, tout passe par là et il faut le prendre vraiment. Je sais qu'il y a plein d'artistes à qui ça fait peur parce qu'on, des fois, on peut se dire, OK, sur TikTok, faut poster un extrait d'une chanson et le faire en boucle. Ça peut être assez fatigant. Mais je trouve qu'en fait, il faut s'en emparer et en faire son truc à soi et juste s'amuser, en fait. Sur TikTok, je trouve qu'on a pas forcément peur du regard des autres. Donc moi, je m'éclate justement à faire des vidéos avec ma famille, même à faire filmer des vidéos par ma famille. Et là, la vidéo justement qui a bien marché avec nous, c'est celle qui est juste filmée par ma maman où je suis.
Comment t'as réussi à la convaincre du coup?
Bah du coup, je lui ai dit, maman, fais-moi confiance. Je sens que cette vidéo peut marcher. Est-ce que tu peux me tenir la caméra? Et je lui ai dit surtout, c'est très rapide. C'est ça qui est pratique avec TikTok, c'est que les tournages, en fait, en une journée, par exemple, c'est des vidéos qui doivent faire 20 secondes maximum. Il y a pas besoin de plus, puisqu'il faut que ça soit catchy. On peut en tourner une dizaine par jour, et ça va nous prendre peut-être une heure si on a la bonne formule. Et là, je lui ai dit, je te promets, ça va pas prendre plus de, je vais pas t'embêter longtemps. Laisse-moi 1 ou 2 minutes. Et en fait, elle a adoré l'exercice. Je me rappelle, elle était un peu en mode réalisatrice. Elle me disait, OK, mets-toi peut-être comme ça, ou comme ça, comme ça. Et au final, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a marché. C'est que c'était très spontané. Même moi, dans mon attitude, parce que je savais que c'était ma mère qui me filmait. J'étais en pleine confiance et j'étais complètement moi-même. Et ça, sur TikTok, en général, c'est ce qui plaît. C'est vraiment la spontanéité.
Donc, c'est maman qui a fait buzzer, ouais. Ta dernière chanson. Non.
C'est ça qui est dingue. C'est vraiment cette vidéo-là, quoi. Cette vidéo filmée par ma mère.
Un clip est en préparation?
Ouais, un clip est en préparation. En fait, l'histoire avec non, c'est que elle était pas du tout sans, je savais pas du tout que ça allait prendre comme ça. J'ai vraiment posté des petits extraits comme ça et j'ai dû la sortir le plus vite possible, mais on a pu la sortir qu'un mois après et du coup on n'avait pas de clip parce que je pensais pas que ça allait être le single, même si je suis ravie parce que c'est ma chanson préférée, une de mes préférées. Et là du coup on est en train effectivement de réfléchir à un clip qui va sortir notamment, sûrement à la rentrée.
Tu as touché un point fort en tout cas avec cette chanson Non. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué à dire. On n'ose pas souvent dire non. On dit souvent oui alors que ça nous fait mal à nous, mais c'est pour faire du bien à l'autre. Et là justement tu pointes ce doigt du non en l'exprimant haut et fort et en le disant qu'il faut s'exprimer, il faut pas se bloquer, se paralyser, il faut l'utiliser plus régulièrement parce que sinon ça nous fait mal.
Exactement. Et en fait, c'est dingue parce que je pensais, moi, c'est un truc que donc j'ai du mal à faire depuis que je suis petite. Donc on appelle ça le people pleasing, le terme un peu américain. Et en fait, je savais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient comme ça. Je pensais pas que c'était. Pour moi, ça a toujours été très difficile de dire non. Je m'améliore avec l'âge. C'est pour ça que je commence à comprendre, je commence à oser le dire. Mais c'est quelque chose, c'est un mot dont j'ai eu très peur pendant des années parce que j'étais persuadée que c'était le seul moyen de se faire accepter, de se faire aimer des autres. Donc j'ai souvent dit oui alors que j'avais envie de dire non. Et ça fait ouais quelques bah, en fait depuis cette chanson ça a été une libération en fait quand je l'ai écrit. Je l'ai vraiment écrit dans un moment où justement je me retrouve dans des situations parce que j'avais dit oui il y a des trucs que je voulais pas et machin et tout. Et je suis arrivée en studio, je me suis dit OK, j'avais une sorte de hâte, je me suis dit j'en ai marre en fait mais j'arrive pas à le dire aux gens donc je vais le dire en chanson et peut-être que ça va mieux passer. Et ça a été mais hyper libérateur pour moi. Et justement quand j'ai vu l'écho que ça avait chez les gens, j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a énormément de gens et notamment de femmes, moi je l'ai vu surtout sur les vidéos reprises sur TikTok, beaucoup de femmes qui ont du mal à dire non et qui m'ont dit bah merci pour cette chanson parce que elles m'ont aidé. J'ai eu des messages de dingue, il y a des gens qui ont démissionné en écoutant la chanson par exemple que ça a aidé. J'ai eu des merci, tu m'as aidé dans mon divorce ou tu m'as aidé à dire quelque chose à ma famille. Et en fait, c'est des gens qui envoient cette chanson là parce qu'ils ont peur de le dire et ça je trouve ça incroyable pour un artiste.
Donc oser dire non dans de bonnes situations au lieu de se braquer, de se bloquer de dire oui et d'être frustré, d'avoir mal derrière. Donc on a hâte de découvrir le clip de cette chanson. Moi, j'aime beaucoup déjà le visuel où tu as des chaussures dépareillées.
Oui.
t'es en tout cas très bien habillé. Pour moi, bah, t'avais pas cette veste là.
Si, c'est la veste de la pochette, justement.
Voilà, c'est
j'ai prise spécialement.
Avec les cartes à jouer, là. Très, très chouette. Donc, on aura un peu, peut-être, cet univers là aussi.
Oui, complètement. Bah, en fait, c'est pareil dans l'identité visuelle artistique. J'ai longtemps réfléchi à ce que je voulais faire et je voulais justement un truc, qui sortent un peu des cases, un peu déstructurées, un peu... moi, tu sais, je suis très maladroite, j'ai mis souvent avec le bouton du dimanche, avec celui du lundi, je me suis dit, ok, en fait, ce truc-là, j'ai envie de le pousser parce que c'est moi. Je perds tout le temps mes chaussettes, donc je n'ai jamais absolument les deux chaussettes identiques. C'est impossible. Et j'avais envie
de
montrer ce côté-là.
Moi, j'ai des fois des paires de chaussettes, pardon, elles sont trouées. Donc, voilà. Comme l'autre n'est pas trouée, bah, je la garde et du coup, bah oui, j'ai des chaussettes dépareillées. Mais c'est pas grave.
Et c'est pas grave parce que c'est un truc des fois qu'on a un peu peur de montrer. Moi, le nombre de fois où je suis allée chez des potes, ils me disaient enlève tes chaussures et j'avais des chaussettes complètement différentes. Et super. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Pareil. Et du coup, voilà tout le style vestimentaire. Je travaille avec une styliste qui est absolument incroyable. Qui m'a aussi fait une veste sur mesure où j'ai tout un concept de manches interchangeables. J'avais ça sur la pochette super normale. En fait, donc c'est des petits zips où je peux changer de manche un peu quand je veux. Et j'aime bien le fait d'avoir toujours la même forme mais que le fond change. C'est un truc qui m'éclate pareil, des manches dépareillées comme les chaussettes et voilà, m'amuser en fait avec la mode et ses codes aussi.
Nous sommes toujours avec Gomard sur IDFM Radio. On va redécouvrir maintenant sa chanson Non. On parlera peut-être de sa rencontre avec Coldplay. En tout cas, tu as assuré la première partie du groupe, mais est-ce que tu les as rencontrés? Je ne sais pas, on verra bien. On parlera aussi, je crois qu'il y a un concert qui se prépare au mois de novembre à Paris, aux Étoiles, et puis de plein d'autres choses. Merci d'être avec nous. Gomard, Non, sur IDFM Radio.
Comme à chaque fois, tu voudrais que je m'écrase. T'aimerais que je te dise que c'est pas grave encore. Faut jamais être soi, jamais trop bizarre. Faut jamais le premier soir, jamais faire d'histoire. Croire en moi-même car personne ne va le faire à ma place. Encore un cocktail ce soir, je crois que je vais boire la tasse. Je sais pas où ça mène, mais cette vie c'est la mienne. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Peut-être qu'hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. Emmerder par un con et lui sourire encore. Devoir faire attention du matin au soir. Cette fois j'en ai marre, c'est plus la même histoire. J'avais peur d'être moi-même tellement que je me suis noyée dans la masse. J'étais trop transparente pour pouvoir me regarder dans la glace. Mais cette vie c'est la mienne, ce sera plus jamais la tienne. J'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Pour les amours, les emmerdes, cette fois j'ai la solution.
tous les moments où tu me prends pour qui je suis. Quand tu m'écoutes sans que je parle, quand tu entends mes envies, on vivra des choses ensemble. Si tu sais ce qui me fait dire oui à tout le reste sans attendre, j'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui aujourd'hui, je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Peut-être qu'hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui aujourd'hui, je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Pour les amours, les emmerdes, cette fois j'ai la solution. Tous les autres jours j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non.
Gomard est toujours avec nous sur EDFM Radio. Il y a quelques minutes, nous avons écouté ton nouveau single Non, disponible depuis le 21 mars, avec un album à suivre dans quelques semaines, plutôt quelques mois quand même, hein, sur cette fin d'année a priori.
Fin d'année ou début, excusez-moi, fin d'année ou début 2026, parce qu'il me reste actuellement deux titres à finir pour être transparente.
Bon, entre temps, tu as sorti quand même quelques titres, hein, oui. Nous les avons évoqués, un album aussi jaune, oui. Des EP aussi.
J'ai jamais sorti d'EP.
T'as pas sorti d'EP.
Ouais, jaune, trois titres et après Super
Normal. Voilà, donc quelques titres comme ça. Il y a eu donc Super Normal dernièrement. Entre, on est fin 2023 et puis ce morceau a continué à vivre tout au long de l'année 2024.
Hein. Oui, complètement.
Et puis Non, donc qui débarque là depuis très peu de temps et qui envahit les ondes avec donc ton univers musical. Moi, je trouve un petit peu, et on te l'a déjà dit, et je te l'ai dit hors antenne, il y a quelque chose de Hoshi aussi dans ce que tu proposes. Et dans ce que tu véhicules. Tu valides, t'es d'accord ou pas?
Je valide entièrement. C'est une super ref. Hoshi, c'est une artiste que j'adore et que j'admire depuis longtemps. Et en fait, il se trouve que le réalisateur de mon album est le même que celui d'Hoshi.
C'est dingue ça.
Ça, c'est dingue et ça s'est fait complètement par hasard, mais je pense que c'est pas anodin. Et en fait, il s'appelle Eddie Pradel, d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Et il m'a dit, les deux seuls albums que j'ai réalisés, parce qu'il est aussi musicien et compositeur, c'est celui d'Oshi et le tien. Et il m'a dit, en fait, vous avez il y a un truc commun dans l'énergie, dans la façon peut-être très, spontanée et familière d'aborder les choses et les thèmes. Et même des sujets de société ou des choses, enfin, je le vois, on a un public avec Oshi qui est très similaire aussi, notamment sur la cause LGBT, par exemple, et tout, je me rends compte que c'est les mêmes personnes, en fait, qui écoutent ma musique, qui écoutent Oshi. Et du coup, c'est assez fou parce que ça s'est fait complètement par hasard, et c'est vrai que même mon tourneur à l'époque, Live Nation, m'avait dit, tu nous fais penser aussi à Oshi sur scène, mais dans un côté un peu plus, peut-être solaire, là, Oshi peut être un peu plus, mélancolique, mais j'adore ce qu'elle fait tout, et du coup c'est un peu les deux penchants, et moi j'adore quand on compare elle. Parce que
et c'est grâce à Live Nation un petit peu que tu rencontres pas mal de monde aussi.
Oui.
Notamment
ouais.
Cette personne ou pas?
Ouais, complètement. Live Nation c'est du coup mon tourneur depuis 2019 et mon label depuis 2021. Donc c'est avec eux que je fais ce nouvel album, et ils m'ont fait rencontrer plein de gens incroyables, et à chaque fois franchement c'est des super entremetteurs.
Ah, grâce à eux, t'as pu faire le festival Lollapalooza.
Ouais.
Bah, c'est eux les producteurs.
Eux les producteurs.
Voilà, c'est un festival américain.
Oui.
Qui va souffler, je sais plus, en tout cas, c'est ce week-end en plus.
Oui, c'est ce week-end.
À l'hippodrome
exactement.
De Paris-Longchamp. Je sais plus si c'est la 3e ou 4e édition. J'arrive plus très bien à suivre. En tout cas, tu fais aussi ce festival, et ça t'apporte aussi encore plus de bonnes vibes, d'énergie. Le public que tu ne connaissais pas, qui vient voir d'autres artistes et ouais. Qui t'applaudit, qui te sollicite, ça doit faire chaud au cœur.
Ah, c'est génial, bah surtout que les festivals c'est un super exercice, je trouve, quand t'es un artiste émergent. J'ai eu l'occasion de faire le Main Square aussi, qui est
le
festival de Live Nation l'année dernière en ouverture. Donc ça c'était un super challenge pour moi, parce qu'en plus j'avais que des nouvelles chansons, et surtout c'était vraiment les festivals, contrairement aux salles où les gens viennent te voir, c'est qu'il y a plein de scènes et il faut convaincre pour que les gens restent sur ta scène. Et moi je trouve ça absolument l'exercice vraiment hyper stimulant et hyper challengeant, parce que je me dis ok, là les gens ne viennent pas, en plus je me rappelle qu'à la même horaire il y avait un gars des One Direction, enfin c'était vraiment la pression quoi. Et au final, j'ai vu que les gens se sont ramenés petit à petit. Je me suis dit, ok, j'ai réussi mon pari. En plus, on a que 30 minutes, c'est très court, mais c'est incroyable. Moi, j'adore les festoches. Je trouve que l'ambiance des festivals, les open air un peu comme ça et tout, les gens sont hyper gentils, hyper cool, tout le monde est super content.
Tu t'es baladé après dans le festival?
Bien sûr.
Certains t'ont reconnu et tout.
Mais moi, j'adore faire ça, aller voir des concerts après avoir joué et tout, parce que j'aime autant aller voir des concerts qu'en faire. Pour le coup, c'est une passion, les concerts. J'ai dû en voir peut-être plus de 500 dans ma vie, je pense. C'est vraiment... Et les festivals, n'en parlons pas, j'ai dû tous les faire. Et du coup, j'aime autant... Moi, j'adore me balader, j'adore découvrir des artistes, parce que je prends souvent beaucoup d'inspi. Et même si des fois, je trouve que l'artiste, on a un peu des déformations professionnelles quand on regarde des concerts, parce qu'on peut pas s'empêcher d'analyser. Si on est en mode « Ah, la transition, elle est bien !» Ou là, comment il a parlé au public, c'est bien. Donc tu prends des petites notes, tu vois. Tu fais. Mais c'est une passion. C'est une passion, en fait. C'est vraiment... j'adore ça.
Ton dernier concert en date, c'était Bataclan ou il y en a eu un autre
auquel j'ai joué, ou tu veux dire le tout dernier, non, c'était un plateau radio à Talent.
D'accord.
Et c'était vraiment un super moment.
Le Bataclan, c'était quand déjà?
Le Bataclan, c'était il y a un an, en première partie de Walk of the Earth. Et c'était la première fois que je jouais dans cette salle mythique. J'ai un souvenir de malade, franchement.
Et 2003 aussi, hein, ça c'est énorme. Tu accèdes au Stade de France en première partie de deux concerts en plus du groupe Coldplay. Hein.
Ça, c'était magique. C'est le genre d'expérience qu'on s'attend pas du tout.
C'est Coldplay qui te choisit? Non, en fait, c'est le tourneur, c'est ton équipe.
En fait, c'est les deux.
C'est les deux, d'accord.
C'est le tourneur et moi, j'étais pas...
Parce qu'on sait que c'est plus trop forcément les artistes qui choisissent les premières parties, on est d'accord?
Ça dépend, c'est les artistes ou alors l'équipe proche des artistes qui les connaissent. Et en fait, là, ce qui s'est passé, moi, j'étais absolument pas au courant en plus. Et on me l'a annoncé un 1er avril. Si tu veux.
Et
j'ai pas cru, parce que le Stade de France, on a plein de nos artistes, on a plein de salles de concert qu'on rêve de faire, que ce soit l'Olympia déjà qui est incroyable, ou d'autres scènes, ou des Zéniths, mais le Stade de France, on le met même pas, parce qu'on se dit c'est que des Johnny, c'est que des gens absolument des énormes stars qui le font, donc j'y avais même pas pensé du tout. Et on m'appelle un 1er avril à Live Nation et on me dit bien, passe au bureau et tout, on a un truc à t'annoncer et tout. Et on me dit, ok,
ils avaient préparé
toi.
Quand même un petit goûter,
ils m'ont fait assieds-toi bien et tout machin, et là ils me font ok, qu'est-ce que tu fais le 16 et 17 juillet prochain, et je leur dis écoutez, je sais pas, et ils me disent bah écoute, tu vas ouvrir pour Coldplay au Stade de France.
Non.
Et moi je dis mais, et là 1er avril je fais les gars, hyper marrant votre blague, vraiment trop drôle. non c'est vrai. Et là ils me montrent le mail de l'agent de Coldplay qui confirme, en gros, qui dit yes to Gaumar, ok, let's go, et tout machin. Et en fait, il m'explique que il y a eu 6 mois, en fait, d'envoi de plusieurs profils, parce qu'en fait, Coldplay faisait 4 stades d'affilée, et cherchait pour les 2 premiers une artiste du catalogue Live Nation, parce que Coldplay aussi, chez Live Nation, c'est leur tourneur français depuis 10 ans. mais à mettre en avant qu'ils soient un peu dans une vibe familiale, solaire et tout, et qui chantent en français. Et ils ont envoyé plein de profils, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils sont tombés sur le mien. Moi, je trouve ça dingue, c'est qu'ils ont Coldplay à écouter mon projet, à valider, et à dire ok, on la teste sur deux soirs.
Wow.
Donc ça, c'est, enfin, quand j'y repense, c'est vraiment complètement fou, et c'était une expérience les plus dingues de ma vie.
Tu as des vidéos sur
j'ai
toi
toujours
dans ton téléphone que tu montes de temps en temps.
Plein de photos, j'ai même fait un vlog sur YouTube où je raconte justement tous les coulisses de comment ça se passe une première partie au Stade de France, et c'était mémorable parce que déjà le public de Coldplay est génial. C'est un public hyper bienveillant, hyper, enfin, ils m'ont donné énormément d'amour et tout. Ils connaissaient pas les chansons, mais ils étaient super à fond, super réceptifs. Et l'équipe de Coldplay, on s'est fait accueillir par eux, ceux qui ont fait le son, ceux qui ont fait tout le truc et tout, ont été aussi géniaux. Malheureusement, je les ai pas croisés. Parce que, en fait, c'est tellement des énormes stars que ils partent direct après les concerts. Par contre, ils m'ont laissé une carte dans ma loge et Chris Martin, à la fin des deux shows, a dit thanks to Gomar. Et je me suis dit, ok, Chris Martin juste me connaît.
Mais tu lui as fait la bise ou pas?
Rien que ça. J'ai pas pu les croiser. J'ai croisé leur équipe et tout, mais en fait, on s'est fait un échange de cartes pendant tout le week-end parce qu'ils étaient, mais du coup, je sais qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent ma musique et ça, c'est complètement fou.
Et depuis, à chaque fois que tu fais une première partie, tu interprètes un morceau de Coldplay ou pas? Non.
j'en ai beaucoup chanté. Après, justement, parce qu'on me demandait d'en faire un peu pour les clins d'œil, j'en ai beaucoup aussi fait sur les réseaux, où justement, les gens qui étaient venus me voir, on m'avait dit, ah, c'est vraiment que tu fasses celle-là et celle-là et tout. J'avais notamment repris Magic, qui est un de leurs titres qu'ils reprennent en français quand ils viennent en France, et je l'avais fait justement spécialement pour l'occasion. Et je me suis rapprochée aussi des Coldplay France, donc c'est tous les fans de Coldplay, et en fait on suit beaucoup, ils viennent à mes concerts maintenant, enfin ça a créé un truc très très chouette aussi.
Donc ça, c'est un de tes plus beaux moments depuis que tu as démarré?
Ah oui, ouais, 100%, en tout cas le plus beau concert que j'ai fait de ma vie.
Vraiment. 80 000 personnes quand même, le Stade de France.
Ouais, ouais, ça, c'est assez dingue. On s'en rend pas compte en fait, moi je m'en suis vraiment rendu compte en regardant les vidéos après. Mais sur le moment, ça te paraît assez réel et les gens finalement sont assez loin. Et j'avais l'impression juste de voir plein de petits Sims.
Mais c'est très perturbant loin. Justement parce que tu sais pas où regarder. Et tu regardes tout en haut, à droite, à gauche, en l'air, devant. En fait, c'est pas simple.
Il faut arriver à regarder tout le monde en fait en faisant, tu vois, en ayant toujours un point. Mais j'avais une préparation de stade. Si tu veux, là, j'avais eu 3 mois de prépa. Même tu sais comment tu vas poser ta voix parce que les stades sont pas forcément adaptés pour les concerts, donc il faut articuler, il faut monter, donc j'avais des phrases, tu sais, de « Est-ce que vous êtes chaud ?» Il faut vraiment faire des phrases de stade pour se faire comprendre, et du coup, j'étais super préparée. Mais en fait, il y avait plein de trucs assez marrants, parce que quand tu fais une première partie d'un groupe comme ça, il y a plein d'endroits sur scène où t'as pas le droit d'aller. Donc t'as plein de petites croix sur scène, ou de petits... Et je me rappelle, sur le couloir du Stade de France, j'avais une bande verte que j'avais pas le droit de dépasser, parce que c'était Chris Martin qui allait après. Et je me rappelle que pendant
ça
le concert,
ça fait penser, tu sais, quand on a un casque de réalité virtuelle et qu'on nous dit, faut pas dépasser la bande rouge.
C'est exactement ça. Comme c'est des chevaux américaines qui sont énormes et tout, t'as vraiment l'impression de faire partie d'une petite, t'es une petite fourmi dans la machine. Et évidemment, pendant le concert, je me chauffe et je me rends pas compte, je dépasse la bande verte, parce que je fais la waouh. Et à l'instant où je le dépasse,
il y a une alarme.
Il y a un mec dans mes oreillettes qui me dit, recule, recule, et tu dois reculer. Et c'est énorme parce que c'est vraiment plein de, c'est très à l'américaine, quoi. Mais c'est formateur de fou, et c'est une expérience de dingue.
Et tu as chanté, quel morceau?
J'avais chanté des chansons de Jaune, notamment, tu vois, j'avais fait Buée, j'avais fait Yellow, j'avais fait des nouveaux titres aussi. J'avais fait une chanson qui s'appelle À ta manière aussi, que j'ai sortie aussi pendant le Covid. Ça, c'était dingue parce que j'avais fait une OP avec les fans de Coldplay. C'est une chanson qui parle de la transmission d'une sœur à son petit frère. Et je leur avais demandé, en fait, j'avais fait une boîte mail où je leur avais demandé de m'envoyer plein de photos de frères et sœurs qui venaient au Stade de France. Et j'avais demandé à Coldplay d'autorisation de les diffuser sur les écrans géants. Et ça, c'était incroyable parce qu'il y en avait plein qui étaient pas au courant. Il y avait plein de parents qui se sont retrouvés avec la photo en grand de leurs enfants ou tu vois, ou les photos un peu. Et c'était, je me rappelle le nombre de vidéos que j'avais eu après de gens qui filmaient leurs frères et sœurs en surprise en train de se voir sur les écrans. Et ça, je remercierai jamais assez Coldplay de m'avoir permis de faire ça parce que c'était un moment de malade avec les gens.
Waouh.
Franchement, ouais.
C'était intense. Tu continues à prendre des cours ou pas? Parce que je sais qu'à un moment donné, tu faisais le cours Florent. Pourquoi tu faisais ce cours en fait? Tu voulais te diriger peut-être vers les comédies musicales aussi à un moment donné ou pas du tout? Parce que là dans ce cours tu faisais tout ça en fait.
Oui,
la comédie, la musique.
Cours Florent musique, en fait il y a cours Florent musique et cours Florent comédie musicale.
Ah d'accord.
Moi, j'ai fait musique, mais j'adore la comédie musicale, et musique c'est vraiment spécialisé sur les auteurs compositeurs interprètes, et c'est exactement ce que je voulais. Je dis pas qu'on a forcément besoin d'une école aujourd'hui. Les gens ils me demandent souvent est-ce que il faut faire une école pour être artiste et tout. Je dirais qu'on peut absolument apprendre tout seul maintenant, mais que c'est un bien quand t'as envie d'être entouré dans un cadre de promo artistique. Moi, ce qui était génial, c'est qu'on avait, dans ma classe, on était une vingtaine, on avait tous un projet différent, une voix différente, et ça crée une émulsion de création artistique qui est géniale. T'as des profs, je me rappelle, on avait des concerts tous les mois dans les petites salles parisiennes, c'était nos contrôles. Donc on se faisait évaluer sur notre présence scénique, notre rapport avec le public, et moi ça m'a vachement appris sur la scène, pour le coup, de faire ça tous les mois. Et surtout, le truc qui m'a changé au Confluence, c'est qu'en première année, on était obligé à la fin de l'année d'écrire une chanson en français. C'était l'époque où, tu sais, il y avait pas encore autant de musique française qu'aujourd'hui en radio et tout. C'était encore c'était pas encore redevenu vraiment à la mode. Et c'était l'époque où les gens, on était avec notre petite guitare en chantant en anglais.
Ça permet de te remettre aussi un petit peu à niveau et puis d'avoir des conseils.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on m'a dit, il faut que t'écrives en français et révélation. Et je me suis dit, ok, je vais vraiment faire mon univers et tout machin. Et ça donne des clés en fait pour construire son identité artistique.
Mais des cours de chant de temps en temps quand même.
Et là, j'en reprends toujours. Oui, bien sûr. Oui, je fais une formation. Je trouve que c'est toujours bien de se mettre au niveau et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans la chanson, même dans l'interprétation, donc je prends souvent ça aussi. Je prends aussi des cours de MAO aussi depuis 2 ans pour pouvoir faire mes propres productions toute seule. Ce qui n'était pas le cas avant où j'étais vraiment une troubadour à l'ancienne, j'étais avec ma guitare, tu vois.
D'être autonome.
Voilà, et là l'idée c'est de plus en plus autonome.
Donc t'as un mini studio un peu à la maison.
Ouais, exactement. Et je prends des cours de théâtre aussi parce que je trouve ça super important.
Et t'as des espèces de coussins au mur pour t'isoler.
Et la totale, ouais, des boîtes de et tout, la totale pour pouvoir enregistrer mes petites maquettes.
Mais après, tu vas quand même dans un vrai studio pour enregistrer, pour peaufiner avec ton équipe. Et tu vas où en règle générale?
Et ben donc du coup, je fais mon album dans un studio qui s'appelle Bel Air. Donc il y a le studio aussi où je enregistre son album avec Eddie le réalisateur, et c'est dans le 2e à Paris. Et c'est un super studio. Bah c'est vraiment les studios de compétition, si tu veux. Le micro sur lequel j'ai enregistré les chansons de mon album, c'est le même micro que Taylor Swift. Donc c'est des micros incroyables à 20 000 euros, tu vois. Donc c'est assez dingue. Ils ont du super matériel et ils sont top.
Et de temps en temps, tu rencontres d'autres artistes. Il peut y avoir des connexions.
Ah mais bien sûr, il y a beaucoup de. Bon, je croise beaucoup de gens là-bas. J'ai croisé Izot. Du coup Oshi, j'ai croisé qui d'autre, j'ai croisé Poupi aussi, si tu vois Poupi, mais j'aime beaucoup. Et en fait c'est il y a pas mal de gens qui passent, et c'est où tu peux faire des connexions assez rapidement. Mais surtout là, c'est là où j'ai rencontré ma team d'auteurs avec lequel j'ai écrit l'album, notamment Nom et d'autres titres et tout. On m'a présenté plein de co-auteurs et enfin moi je trouve ça génial, j'adore ce côté un peu colo.
Il y aura justement encore peut-être des featurings. Il y en avait déjà eu un auparavant avec un rappeur sur le morceau Yellow.
Oui.
Est-ce que là, sur cet album qui sort à la fin de l'année, peut-être ou pas, ou tu peux pas le dire?
Alors pas pour cet album-là, mais pour la suite, je peux pas trop en parler, mais j'ai peut-être quelques collaborations qui arrivent.
Très bien. Donc des titres en plus qui sortiront avant ou après l'album.
C'est ça.
Cool. Bah, merci beaucoup, Gomard, d'être passé aujourd'hui sur IDFM Radio. Bonne continuation à toi. Aux Étoiles en novembre, un concert. Ton concert à toi, du coup, là, il n'y a pas de première partie.
Non, là, c'est première fois, c'est mon tout premier concert.
Quand exactement, la date en novembre?
Alors, la date, je vais avoir la réponse, je ne vais pas donner maintenant, mais je vais l'avoir dans ici une semaine, je pense, donc je pourrai la mettre sur mes réseaux et vous trouverez toutes les infos sur mes réseaux.
Et je reprécise que ta dernière chanson, Nom, est disponible partout de chez partout depuis le 21 mars. Hein.
Exact.
Bel été à toi et bonnes vacances. Hein. Je sais que c'est dans 2 semaines et demie. Hein.
Ouais, c'est bientôt.
Ça se rapproche.
Merci à toi.